Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission présentée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Roger Teboul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, vous travaillez au secteur de psychiatrie infanto-juvénile de l'EPS de Ville-Évrard et plus particulièrement dans la commune de Montreuil. Vous êtes également vice-président de l'association des psychiatres de secteur infanto-juvénile, API. Et si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est pour que nous évoquions ensemble, après l'émission de Jean-Philippe Cattonnet sur la situation de la psychiatrie en France, la question plus précise de la pédopsychiatrie, secteur où de nombreuses questions font aujourd'hui débat et que je voudrais éclairer avec vous à la lumière de la raison. Donc, une première question qui a agité il y a quelques mois le débat politique et qui réapparaît de façon récurrente, c'est celle de la prévention de la délinquance comme celle de la justice des mineurs. Alors, pour prendre du recul, qu'est-ce que le pédopsychiatre que vous êtes peut nous dire du rapport à la violence des enfants ?
Mais je crois qu'il y a déjà un constat à faire, c'est que la violence est un fait inhérent à l'enfance comme à l'humanité en général. Et que, effectivement, précisément, la société vient pour lutter contre toutes ces formes de violence et pacifier les rapports entre les gens. Mais un enfant petit, il est normalement violent. Alors, on a, de façon un peu rapide, j'ai trouvé certains de mes collègues publier un rapport qui avait mis le feu aux poudres à l'époque, lorsqu'il est paru fin 2005. C'était une expertise collective de l'INSERM sur le trouble des conduites, où il apparaissait qu'on pouvait taxer de pathologiques des comportements chez des tout petits enfants qui pouvaient aussi apparaître comme des comportements normaux. Des gamins qui se balancent des coups à la crèche, qui se mordent, qui se griffent, hein. Moi normal. Ça m'apparaît normal. Donc aller dépister des enfants qui sont plus violents que d'autres et commencer à les mettre en fiche, ça nous a beaucoup émus. C'est un peu de là qu'est partie cette polémique, d'autant que ce rapport a servi ensuite des desseins politiques et que le président, l'actuel président de la République, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, s'était emparé de ce rapport pour dire « il faut une loi pour prévenir la délinquance et plus on s'occupe de ces enfants tôt, moins ils ont de chances de devenir délinquants ». Ce qui, à mon sens, mérite d'être discuté. Voilà, c'est un peu le propos de la polémique sur la violence. Maintenant, effectivement, on est dans une société aujourd'hui où cette question travaille beaucoup tout le monde. Peut-être que le contexte de la crise actuelle invite à réfléchir à tout ça. C'est vrai qu'en 2005, il y avait eu aussi ce qu'on a appelé les événements dans les banlieues françaises. Et pour raccrocher à la pédopsychiatrie, il s'est trouvé qu'à cette époque, en Seine-Saint-Denis, où je travaille, alors qu'on ne s'était pas concerté, puisqu'on avait commencé à y réfléchir bien avant que ces événements n'éclatent, on a fait des états généraux de la pédopsychiatrie. Mmh. On a eu un écho médiatique extraordinaire, mais en même temps, on s'est rendu compte qu'il ne fallait probablement, il fallait être très prudent pour éviter que l'exploitation, en quelque sorte, médiatique de la violence qui serait pathologisé, psychiatrisé. Et je crois que c'est ça l'enjeu des problèmes. Alors, en quoi ça concerne la psychiatrie ? C'est qu'il y a effectivement des enfants qui sont violents, plus violents que d'autres, parce qu'ils souffrent. Et cela, on les soigne, effectivement, on les soigne. Mais les soigner, ça veut dire aussi prendre soin d'eux et pas seulement les traiter par des médicaments, les reléguer, les mettre en prison, c'est aussi prendre soin d'eux, prendre du temps avec eux, et c'est ce qu'on essaie de faire dans le service pour adolescents dont je m'occupe.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter la façon dont vous soignez les enfants ? Est-ce que vous pensez corrélativement des traitements psychotropes chez l'enfant ?
Alors, des traitements psychotropes chez l'enfant, Je crois que ça a fait débat, enfin. Il y a eu tout un temps où il y a eu une grosse, grosse offensive des grandes compagnies pharmaceutiques pour qu'il y ait des recherches dans ce domaine et qu'on prescrive un peu sur le mode anglo-saxon et qu'on prescrive un peu plus de psychotropes chez l'enfant. Les pédopsychiatres français ont beaucoup résisté. Donc les compagnies pharmaceutiques se sont tournées vers les généralistes qui sont les plus gros prescripteurs de psychotropes chez l'enfant. Alors il y a toutes les classes de psychotropes, il y en a eu un en particulier qui a beaucoup défrayé la chronique, qui est la ritaline, qui est donc cette amphétamine, un psychostimulant pour traiter l'enfant hyperactif, agité, instable, avec des déficits d'attention. Et c'est vrai qu'on a assisté à une augmentation considérable de prescription de ce médicament, et je ne suis pas sûr que cette augmentation considérable ait été toujours accompagnée d'une bonne réflexion sur la clinique de ces enfants, sur les symptômes vraiment présentés par ces enfants. Parce qu'il y a, bien sûr, l'instabilité et l'hyperactivité, mais il y a des tas aussi de comorbidités, de maladies associées, de troubles associés à cette hyperactivité, qui sont tout aussi intéressants à prendre en compte et qui méritent aussi qu'on pose un peu mieux les questions que simplement sur le mode de la violence ou de l'instabilité.
Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire une façon de soin à Montreuil, dans votre PS ?
Alors, dans l'unité ADO 93 dont je m'occupe, on a d'abord de la chance, parce que c'est une unité où il y a très peu d'adolescents hospitalisés, on n'en a que 4. Enfin, ce n'est pas faute d'en avoir demandé plus, des lits, mais on a des problèmes de locaux. Alors, ça, il faut savoir que l'intendance ne suit pas toujours dans le service public. Mais alors, le fait d'avoir 4 adolescents, ça permet effectivement un travail un peu sur mesure. Et nous soignons beaucoup, nous utilisons bien sûr des médicaments quand c'est utile, mais pas seulement. Nous soignons beaucoup aussi par la relation et la parole. Et moi, j'ai beaucoup été inspiré par le modèle de la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire un modèle qui prend en compte l'organisation même de l'institution et la façon dont un patient vient s'accrocher à une institution qui est faite de plusieurs personnes soignantes. Et donc, on réfléchit beaucoup à cette relation qui s'installe. On travaille beaucoup sur ces notions qui semblent aujourd'hui dépassées, mais qui, je crois, ont toute leur actualité de transfert, de contre-transfert, c'est-à-dire des gros mots psychanalytiques. Parce qu'aujourd'hui, il faut être efficace et donc plus comportementaliste. Mais ces gros mots-là, je trouve, nous aident beaucoup à penser et nous aident beaucoup à se poser et prendre du temps. Et parce que je trouve que vraiment, on est dans une société de zapping de plus en plus. C'est un peu bête ce que je dis, un peu trivial, mais néanmoins, c'est la vérité. Et on se rend compte que pour certains gamins, qu'on garde en moyenne 5-6 semaines, c'est peut-être le seul moment depuis bien longtemps où on a tout mis sur la table et on essaie de faire le tri. Et prendre son temps aujourd'hui, c'est une espèce de luxe qu'on ne pourrait plus se permettre. Et je trouve ça, je trouve que c'est vraiment matière à réfléchir.
Et au fond, il me semble que ce que tentent de défendre les psychiatres, précisément dans les différentes luttes qui ont eu lieu pour défendre leur lieu d'exercice, c'est ce temps consacré à l'enfant.
Temps consacré à l'enfant, ce temps consacré à l'adulte psychotique. On voit bien aussi comment aujourd'hui, ce qu'il est convenu d'appeler les usagers ou les familles de malades mentaux nous suivent sur ce terrain parce que, effectivement, le modèle de la psychiatrie, de l'organisation de la psychiatrie en France est quand même un modèle très intéressant, même s'il est décrié parce que peut-être on n'a pas assez fait de pub et pas assez bien communiqué, mais c'est un modèle intéressant parce que effectivement, on essaie de considérer la personne dans son ensemble, autant dans les troubles qu'elle peut présenter, la souffrance qu'elle peut présenter, que dans son insertion sociale et que dans ses relations avec son entourage. C'est la psychiatrie dans la cité et c'est ça qui est important. Et c'est vrai que nous réclamons dans le service public de psychiatrie, d'avoir ce temps-là. Et pour avoir ce temps-là, ça demande des moyens, mais des moyens humains. Et pas des techniques, et pas ou des médocs, comme on voudrait.
Des bilans.
Ou des bilans, ou des évaluations, des trucs très high-tech et tendance, mais vraiment quelque chose de basal, qui est le temps qu'on consacre à nos fous ou à nos ados qui font les cons et qui dérangent et qui font du bruit. Voilà, leur accorder ce soin-là. Voilà, et je pense que ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette société efficace, c'est presque indécent de revendiquer ça.
D'autant qu'il me semble qu'une logique de rentabilité adaptée à la psychiatrie n'a aucun sens.
C'est assez drôle, cette histoire de la rentabilité, parce que vraiment, s'il y a une population qui vient, il n'est qu'à reprendre les travaux de Deleuze et Guattari, alors des vieux 68ards, me direz-vous, mais quand même, s'il y a bien une population qui est là pour critiquer cette notion de rentabilité, c'est bien les fous, et aujourd'hui peut-être les adolescents. Parce que voilà, il y a des limites, et on travaille aux limites de la société, toujours, toujours, quand on est psychiatre. Et de fait, ça a comme ça un côté un peu subversif.
Alors je voudrais qu'on aborde ensemble peut-être la douloureuse et difficile question de l'autisme et que vous nous éclairiez un peu sur le débat qu'il y a eu entre justement le champ du handicap et le soin dans l'autisme.
Ça c'est un débat très, effectivement comme vous dites, douloureux aujourd'hui parce que s'oppose alors que je crois qu'il n'y a vraiment pas lieu, s'oppose des théories. S'opposent des dogmes, s'opposent des idéologies complètement, de façon complètement violente, très violente. Et je trouve ça un peu stupide parce que c'est pas aider les gamins. Bon, je crois qu'il faut pouvoir éduquer et ces enfants qui sont dits autistes et leur apprendre à vivre en société, c'est très important ce que font tous les cognitivo-comportementalistes aujourd'hui qui se pensent sur la question. Je crois qu'il faut effectivement chercher du côté de la génétique pour espérer trouver quelque chose, mais ces recherches restent pour le moment bien vaines. Et je crois qu'il faut quand même, à un moment ou à un autre, continuer à se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'être autiste. Parce qu'on est autiste. Et alors, c'est pas que être handicapé, c'est aussi être ce qu'on est et vivre avec ce qu'on est et vivre dans sa famille autant que faire se peut avec ce qu'on est quand on est un enfant, puis quand on devient un adolescent et puis un adulte. Et cette façon d'être aujourd'hui dans cette société efficace, il faut qu'elle rentre dans les cases.
C'est ça, donc...
Et ça, c'est un peu contraignant, je dirais. Alors c'est vrai, les psychanalystes ont probablement commis des erreurs en agitant un peu trop cette question de la subjectivité de l'être, parce que les psychothérapies psychanalytiques des enfants autistes, telles que, par exemple, je me souviens de ce livre magnifique de Jean Vautrin, La vie Ripollin, tel qu'il pouvait le raconter, espèce de caricature de psychanalyste lacanienne, matinée de philosophie hindouiste, de choses comme ça, enfin, comme on pouvait en rencontrer dans les années 70. Oui. Cette caricature-là a fait beaucoup de mal au traitement psychanalytique de l'autisme, alors que je crois que les psychanalystes ont beaucoup apporté aussi à cette question de l'être autiste et à la façon dont on peut vivre comme ça et vivre pas si mal aussi. Et moi, je vois bien comment aujourd'hui, avec cette question du handicap, enfin la façon dont aujourd'hui l'autisme est en train de basculer du champ sanitaire vers le champ médico-social, et que de fait, on ne parle plus de maladie, mais de handicap, et que donc les pédopsychiatres, comme je suis, ont de moins en moins à voir avec l'autiste, sauf pour traiter, et c'est dans les circulaires qui paraissent aujourd'hui, l'urgence, ou faire les évaluations diagnostiques, très tôt, ça me paraît un peu dommage. Je pense que tout ça peut être, peut travailler ensemble et s'articuler, et je trouve que dans quand même pas mal de secteurs de pédopsychiatrie, peut-être moins dans les secteurs de psychiatrie générale, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais dans les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, on essaie de faire, on essaie de conjuguer. On travaille avec les écoles, on travaille avec les familles, on travaille avec, l'être de l'enfant, et on a un abord multiple. Et je trouve que vraiment, aujourd'hui, on est obligé de s'opposer bloc contre bloc, et ça, c'est un peu dommage. Mais il ne faudrait pas que l'autisme sorte complètement du champ sanitaire. pour ne tomber que dans le champ du handicap, parce que je pense que aujourd'hui, c'est ce qu'on voit de plus en plus avec l'intégration scolaire, il y a une espèce d'échappement aux soins, parce que les enfants sont à l'école, sont intégrés à l'école, et on considère que c'est suffisant. Et on alerte de plus en plus les pouvoirs publics, nous autres pédopsychiatres, nous alertons les pouvoirs publics, parce que on se rend compte que les enfants, ils sont à l'école avec une auxiliaire de vie scolaire, une AVS, ça s'appelle, en abréviation, qui n'est pas formée, et qui doit accompagner des gamins bien turbulents pour leur permettre d'être à l'école, de rester à l'école. Et parfois, on se dit, c'est un peu dommage qu'il y ait cette intégration à tout prix, même si ça devient presque un droit opposable aujourd'hui, l'intégration scolaire des enfants handicapés. Et je trouve que, voilà, il faudrait revenir à un peu plus de raison.
Parce qu'il faut des gens très formés pour s'occuper d'enfants autistes.
Je crois. C'est pas une petite affaire. Ça remue beaucoup. Il n'y a qu'à entendre les parents, d'ailleurs, qui vivent ça au quotidien et de façon beaucoup plus violente que les professionnels. Ce n'est pas évident. Et je crois qu'il faut effectivement un minimum d'encadrement, un minimum de supervision, un minimum d'étayage dans un contexte justement institutionnel qui soigne, et qui soigne, qui prend soin. Et pas seulement qui éduque aussi, mais pas seulement.
D'accord. Eh bien, Roger Teboul, c'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Merci de nous avoir montré comment l'enfant est un être en devenir qu'on ne peut pas compartimenter dans des cases trop réductrices.
Ah, je crois, oui, ça c'est quand même une leçon que nous recevons tous les jours de la part de ces enfants et de ces adolescents, tous les jours.
Roger Teboul, je vous remercie.
Merci à vous.
L'émission de Jean-Philippe Cattonnet, que j'ai évoquée au début de l'entretien, est parue ce mois-ci dans les cahiers rationalistes, ainsi que l'interview d'André Grimaldi. Je rappelle le numéro 144 de Raison Présente, consacré à la psychiatrie en France. Je remercie Brigitte Mazir qui a rendu possible cette émission.